Yeah. Radio Quartier Live.
Radio Bellevue.
En direct
du festival
de Brest,
en bulle
au Capucin.
Au sommaire de cette émission, des invités formidables. Nous recevrons Virginie Augustin, Brigitte Luciani, Pascal Bresson, Lionel Chouin et Bertrand Gallic. Mon prof d'histoire préféré qui jette des téléphones par la fenêtre. Ils seront sur le plateau afin de nous parler de leur bande dessinée et de leur métier. Nos chroniqueurs vont aussi préparer leur avis sur certaines BD.
Enfin, nous vous avons réservé une adaptation radiophonique sur de la BD Spirou de Franck P et Zidrou. Tout le monde va bien ?
Oui !
Super, c'est parti ! On va tous buller dans des cases. Est-ce que vous savez buller ? Non, bon. Heureusement, Raphaël, notre traducteur maison, va traduire toute cette émission en bulle. Eh mais Raphaël, est-ce que tu sais comment on dit bande dessinée en bulle ?
Ah bah bien sûr.
Ok.
On commence par la chronique de notre Brian Chéri sur la BD Brest en bulle. Veuillez l'accueillir chaleureusement.
Bonjour à tous, chers auditeurs. Moi c'est Brian. Dans cette chronique, je vais vous présenter la BD Brest en bulle. C'est un ouvrage né d'une exposition lancée par la Bibliothèque municipale de Brest en 2009. Le principe, plusieurs auteurs doivent raconter une petite histoire liée à la ville, qu'elle soit fantastique, contemporaine, historique, comique, triste ou effrayante. 9 auteurs se sont prêtés au jeu. Gwendal Le Mercier, Java, Grinette, Nanor, Nicolas Cadeau, Baptiste, Lilian Lebar, Briac et Jocelyn Paris. La plupart de ces auteurs sont nés à Brest. Ils peuvent donc très bien nous raconter leur vision de la ville à travers leur imagination. Les dessins de Jocelyn Paris m'ont beaucoup touchée. C'est aussi mon histoire préférée dans la BD. Les personnages sont réalistes, on s'identifie à eux. En résumé, l'histoire nous replonge dans une manifestation en 2002. Entre les deux tours de l'élection présidentielle, 10 000 personnes se sont rassemblées, place de la Liberté, pour faire front contre le FN. Au milieu de la foule, un garçon et une fille se rencontrent mais se perdent de vue quelques heures après l'événement. Ce qui m'a donné envie de lire cet ouvrage, c'est la première de couverture. On remarque le château, lieu important de la ville, et d'anciens bateaux. Cette image est jolie et bien dessinée. Quant au titre, on sait que ça va nous parler de Brest. J'aime quand on parle de ma ville, surtout à travers la bande dessinée. Nous reconnaissons plein de lieux dans la ville. Place de la Liberté, la gare, le kiosque, Océanopolis, la mairie, la tour Tanguy, le château, Dialogue, les fontaines de la rue d'Ossiam, les commerces et le moulin blanc. Ces lieux forment le décor d'intrigue et d'aventure où l'imaginaire prend le pas sur la réalité. Dit la quatrième de couverture pour nous donner envie de lire, les lieux sont en effet très ressemblants. On retrouve Brest dans toute sa splendeur et dans tous ses clichés plus ou moins vrais. C'est ce que je dirais fabuleux. J'espère vous en avoir appris un peu plus sur cette BD.
Merci Brian pour cette super chronique. Au fait, Raphaël, tu sais comment on dit Brian en bulle ?
Bien sûr.
Ah, mais je croyais que ça voulait dire bienvenue Virginie.
Mais non, bienvenue Virginie, c'est...
Ok, d'accord. Nous accueillons maintenant Virginie Augustin, dessinatrice de dessins animés et autrice de bande dessinée.
Je laisse l'antenne à Nolwenn, notre belge spécialiste de la bande dessinée, ch'ti et qui fait bien les frites. C'est elle qui va mener l'interview. À toi, Nolwenn.
Bonjour à tous. Bonjour Virginie Augustin.
Bonjour.
Tout d'abord, pourquoi avez-vous voulu devenir dessinatrice de BD ?
C'était pas évident d'emblée. Je voulais pas forcément faire de la bande dessinée, je voulais faire du dessin. Donc j'ai commencé à travailler dans le dessin animé. Et en fait, au fur et à mesure, je suis revenue en fait à mes premières lectures d'adolescente et je suis revenue à la bande dessinée. C'est comme ça que je me suis lancée.
Et quel a été votre parcours pour arriver à être dessinatrice ?
Alors du coup, effectivement, je dirais plutôt autodidacte. J'ai toujours dessiné depuis petite fille. Je me suis jamais arrêtée. Puis après, j'ai voulu faire du cinéma. Puis après, donc, j'ai fait du dessin animé. Pour ensuite devenir dessinatrice vraiment de bande dessinée proprement dit.
Et comment vous avez réussi à vous faire connaître
Alors, se faire connaître, en fait, c'est... C'est beaucoup dire parce que je ne suis pas quelqu'un de très, très connu dans... Peut-être un peu plus de mes collègues, mais pas forcément du grand public. Mais par contre, me faire repérer dans ce métier-là, j'ai travaillé avec des dessinateurs, justement, de bande dessinée dans le dessin animé. Il se trouve qu'il y a souvent des gens qui travaillent sur les deux, dans ces deux professions. Et c'est eux qui m'ont dit, va, propose ce que tu fais en bande dessinée à des éditeurs. Ce que j'ai fait, qui a permis justement de me lancer dans ce métier.
D'accord. Et qu'est-ce qui vous inspire dans ce métier ?
Ce qui m'inspire, c'est à peu près tout ce qui m'entoure, les gens, les lieux, le temps, vraiment tout ce qui est autour de moi. On apprend à dessiner tout ça, en fait, quand on commence à dessiner.
D'accord. En combien de temps dessinez-vous une BD, à peu près ?
Alors, j'essaye d'aller de plus en plus vite, mais je crois que je n'arriverai pas à aller moins de 6 mois. Ça peut aller jusqu'à 3 ans.
Ah ouais, ça fait beaucoup.
Oui.
Comment ça déroule votre travail avec l'auteur ?
Alors, je suis autrice aussi, hein. Même si moi je ne fais que dessiner. Quand je travaille avec un scénariste, ça dépend. C'est-à-dire que soit le scénariste a une histoire et il me dit voilà, il faut la mettre en image, et puis je fais ce qu'il me dit. Soit j'ai une discussion en fait avec lui et on essaie d'améliorer perpétuellement en fait la composition des planches, des pages, pour savoir comment bien raconter son histoire.
Quel est votre lieu de travail ?
Je travaille chez moi. J'ai la chance de pouvoir travailler chez moi dans le salon qu'on a installé maintenant, qui est plus pratiquement un atelier. Donc je ne peux pas trop recevoir parce qu'il y a mon bureau, mes ordinateurs, enfin tout le matériel.
D'accord. Vous travaillez avec quel support ? Ordinateur, papier ?
Alors j'ai commencé à travailler sur papier et puis en fait au fur et à mesure effectivement le numérique prend plus de place, donc je l'ai aussi intégré dans mon travail. Ce qui fait que maintenant, je travaille sur ordinateur, sur tablette numérique et encore sur papier. J'essaie de ne pas perdre la main.
Quelle facette de votre travail vous déplaît ?
La solitude, peut-être. On travaille un peu tout seul. C'est peut-être ce qu'il y a de moins rigolo.
Si vous aviez un conseil pour un jeune qui rêve de faire de la BD, ça serait lequel ?
Ce serait de poursuivre ses études et de faire comptable. C'est très compliqué comme travail. Il y a énormément de production. C'est vraiment un travail, je dirais, difficile. Le problème, c'est quand on a ce virus-là, on a beau dire des choses, et la plupart du temps, quand on a un rêve comme ça, on a envie de le poursuivre. Et donc, quoi que je dise, ça changera strictement rien. Je le sais très bien. Je lui dirais, si jamais tu as vraiment ce rêve, bah, tant pis, oublie les études de comptable et puis fais de la bande dessinée, essaye.
D'accord. Et j'ai une dernière question. Quels sont vos projets ?
Alors plein de projets, beaucoup de choses que je vais sans doute jamais faire. J'aimerais bien travailler toute seule aussi, j'aimerais bien savoir écrire autrement qu'en faisant des dessins. Mais je pense que ça va, c'est pas pour tout de suite, quand je serai grande peut-être. Sinon plein de projets de bande dessinée, d'albums, je vais retravailler avec des scénaristes avec qui j'ai déjà travaillé. Une histoire autour de l'adolescence, une histoire de barbare, rien à voir, d'autres projets, voilà.
Merci beaucoup d'être venu et d'avoir répondu à mes questions.
Merci beaucoup.
De rien. On remercie. On remercie Virginie et Nolwenn d'être venus discuter sur notre plateau. On vous invite à découvrir les BD de Virginie Augustin.
Et au fait, Raphaël, tu saurais faire un mec qui donne du 12e étage ?
Ah bah bien sûr.
Ça va, Raphaël ?
Ouais.
Ok, super. Alors maintenant, on a l'honneur de recevoir Brigitte Luciani, scénariste de bande dessinée. On va l'interviewer dans un instant. Mais tout d'abord, Freddy, notre maître de conférence, va nous dire ce qu'il a pensé de la bande dessinée de Brigitte Luciani, Monsieur Blaireau et Madame Renard.
Merci beaucoup. Bonjour.
Bonjour, Freddy.
Donc, je vous parlerai aujourd'hui de la BD Monsieur et Madame Renard. Non, Monsieur Blaireau et Madame Renard de Brigitte Luciani. Donc, c'est une BD que j'ai beaucoup appréciée. Donc, pour commencer, c'est une BD qui raconte l'histoire d'animaux forestiers. Je veux parler d'un blaireau, d'une renarde. Et des renardeaux et des blaireaux. Du coup, ça se passe en hiver, dans une forêt. Et les couleurs sont plutôt chaudes dans la BD et froides. Je m'imagine bien que le show, c'est pour marquer la convivialité des renards, des blaireaux, autant pour moi, vers les renards. Et les couleurs froides, c'est pour marquer les temps durs de l'hiver. C'est l'hiver, c'est la disette, il n'y a pas beaucoup de ressources. Et donc, dans les premières pages, on remarque qu'il y a souvent un comique de situation, de gestes, des onomatopées qui sont plutôt rigolotes, par exemple des gargouillements de ventre. Le langage, il est plutôt enfantin. Et aussi, on remarque qu'il y a une crise de subsistance. Ils ont faim, ils n'arrivent pas à se nourrir. Et puis, ils vont essayer de mêler leur méthode de chasse, vu que les blaireaux sont plutôt végétariens et les renards sont carnivores. Du coup, c'est deux modes de vie différents pour réussir à vaincre la faim. Donc, c'est leur motivation est de faire partir l'hiver. Donc, l'hiver est personnifié. Du coup, l'hiver, ça devient le bouc émissaire de ces animaux. Ils décident d'organiser un carnaval dans le but de faire revenir à la belle saison qu'est le printemps. Le carnaval va se dérouler durant la nuit. Et c'est un carnaval qui sera plutôt fantastique parce qu'il y aura des personnages de contes de fées parmi les déguisements. Et donc, la fin du carnaval va se solder par l'arrivée du printemps, enfin une légère arrivée du printemps, parce que sur la dernière vignette de la bande dessinée, on peut voir fleurir une tulipe avec une hirondelle qui prend son envol. Ce qui laisse savoir qu'il y aura une suite de la BD, mais je suis un peu restée sur ma faim. Du coup, je me suis rendu compte que le message, sans doute, que voulait faire passer la BD, c'était la solidarité entre les animaux et la cohésion sociale. Voilà. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes madame Brigitte Luciani ou Luciani?
Alors ça, c'est corse, c'est Luciani ou Luciani, c'est plus facile. Mais j'ai des origines allemandes, hein. Si vous entendez mon accent, c'est pas corse, en fait, je brouille les pistes.
D'accord. Alors vous êtes une scénariste de bande dessinée, c'est bien ça?
Oui, c'est ça. J'ai travaillé avec Eve Tarlet, qui est responsable donc, de ces magnifiques visuels qui sont faits avec de l'encre colorée, couleur directe.
D'accord. Et donc, comme vous pouvez le voir, j'ai lu une de vos BD, que j'ai beaucoup appréciée d'ailleurs. Donc, la question vraiment qui... Enfin, la question qui me dérange beaucoup, c'est pourquoi avoir choisi comme personnages principaux des blaireaux et des renards? Pourquoi ces animaux-là?
J'avais envie depuis longtemps de vivre, de parler de la difficulté de vivre ensemble. Oui. Et c'est quelque chose qui se passe dans la vie réelle. C'est pas moi qui invente, mais c'est vraiment les renards qui squattent dans le terrier des blaireaux quand jamais ils ont un problème de territoire. Si jamais le terrier est abîmé, ils cherchent un nouveau. Et si jamais ils ne trouvent pas un nouveau qui est vide, ils vont chez les blaireaux. Et les blaireaux, ils sont super gentils parce qu'ils se poussent un peu. Donc c'est calqué sur la nature. Et chaque fois, j'essaye en fait de m'appuyer le plus possible sur la nature. Donc j'observe comment ces animaux vivent. Et le comportement des blaireaux est très prudent. C'est probablement rarement que vous voyez quelqu'un donc rencontrer un blaireau parce qu'il met une éternité pour sortir. Il n'aime pas trop vivre dehors. Il est tout le temps dans son terrier. Il prend bien soin. Et le renard, il est tout à fait le contraire. Il est très vif et il va tout le temps dehors. Il n'a pas peur parce qu'il sait normalement qu'il peut se débrouiller. Et donc faire vivre, cohabiter ces deux espèces, c'est ça qui m'intéressait là-dedans. C'est pourquoi j'ai choisi les deux blaireaux et renards.
En faisant ça, vous n'êtes pas un peu donneuse de leçons?
Ah, j'espère non.
D'accord. Et donc, est-ce que vous avez songé à en faire un dessin animé, une animation, un court-métrage?
C'est effectivement en train d'être adapté. C'est France TV qui est en train de travailler dessus et ça va sortir en 2018. Ça s'appellera Blaireau Renard. Mais je reviens donc sur le fait que les blaireaux et les renards vivent ensemble et je m'appuie sur la nature. C'est que vous avez raconté pour l'hiver, c'est justement quelque chose où je observe comment les renards et les blaireaux passent l'hiver. C'est pas du tout pareil. C'est le blaireau, il a besoin de dormir un petit peu. Genre, c'est pas une hibernation, mais c'est 3 jours, il peut dormir d'affilée. Et avant, surtout, il mange, et après, il bouge pas trop. Il se repose, il essaie vraiment de passer de cette période le plus calmement possible. Et bien, le renard, c'est tout le contraire, parce qu'il a besoin de chasser. Donc, il est sans cesse en train de s'agiter et de chasser dehors. Et si maintenant, je m'imagine ces deux espèces habitées dans le même terrier, donc dans le même appartement, quelqu'un qui est surexcité et quelqu'un d'autre qui veut avoir le calme, ben c'est comme chez moi à la maison, hein. C'est difficile.
Et comment vous pouvez illustrer cette situation avec la vie actuelle, dans la réalité?
Ben c'est, je reste dans le cadre familial. Je parle, mon terrier, c'est mon appartement. Et quand je vois comment ma famille vit ensemble, ben c'est parfois ça se passe super bien et parfois c'est un peu plus tumulté. Et moi, je pense, étant fille unique, j'ai grandi et j'étais une fille unique, j'ai toujours rêvé en fait d'avoir des frères et sœurs. Et là, c'est quelque chose qui arrive à la petite Renarde, qui était fille unique. Et brusquement, elle se retrouve avec deux blaireaux frères. Et ben, voyons voir comment ça se passe.
D'accord. Et la VD, elle concerne quelle tranche d'âge environ?
Alors, puisque c'est une BD, j'aime bien que les enfants les découvrent seuls. Donc, moi, je dirais à partir de 6 ans, dès qu'ils peuvent lire. Et c'est tous les primaires. Après, s'il y a des parents qui aiment lire la BD à haute voix, évidemment, ça fonctionne super bien.
Donc. D'accord. Et combien de temps ça vous a mis pour réaliser cette BD?
L'idée, c'est toujours très longue, mais l'écriture du scénario même, c'est 3 mois. Et Eve Tarlet, elle met 6 mois pour dessiner. Donc ça fait 3 mois plus 6 mois, c'est 9 mois, comme pour un bébé.
Les 5 tomes ou la BD, le tome 4 ou tous les tomes en entier?
Pardon?
3 mois pour les 5 tomes ou...
Non, pour un album, hein, on met 9 mois.
D'accord. Bah, du coup, je vous remercie d'avoir répondu à toutes mes questions.
Bah, merci à vous.
Rien.
Bravo. Merci à Brigitte, Luciani et Freddy pour ce grand moment de radio. Et oui, chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Bellevue, une émission qui aime les bulles. Et oui, c'est Radio Bellebulle.
T'en as pas un peu marre des bulles, Raphaël?
Moi? Non.
Ah, bon. Et maintenant, place à celui que vous attendez tous, le grand, le magnifique Abdel. Abdel a lu une bande dessinée. C'est incroyable, non? On vous laisse découvrir.
Bonjour à tous, je m'appelle Abdel, j'ai 15 ans. Je suis un jeune de la maison de quartier de Bellevue et je vais vous faire aujourd'hui une chronique sur la BD et le film Aya de Yopougon. Si vous ne connaissez pas, ça a reçu le prix du meilleur album d'Angoulême en 2006. Alors, vous devez vous demander comment je suis tombée sur cette BD et sur ce film. Très bonne question. En 2014, j'étais en vacances un été chez ma tante à Paris avec mon cousin. Et chaque soir, on regardait un film. Et un soir, on cherchait un nouveau film à découvrir et on est tombé sur Aya de Yopougon, sur un site illégal. On l'a téléchargé légalement, bien sûr, et on l'a regardé. Ça m'a plu, ça m'a fait rire. Il y avait plusieurs émotions dans ce film. Et quelques mois plus tard, je crois que c'était au CDI ou à la bibliothèque, je ne sais plus trop, j'ai voulu le lire en pensant que c'était la suite du film. Mais en fait, pas du tout. C'était le film raconté en BD. Parce qu'en fait, c'est la BD qui a inspiré le film et non l'inverse. Comme la BD avait eu beaucoup de succès, ils ont décidé d'en faire un film. Alors, vous vous demandez maintenant qu'est-ce que ça raconte? Ben, je vais vous le dire tout de suite. Ça raconte l'histoire d'un petit quartier chaud en Afrique, nommé Yopougon, qui se trouve pas loin d'Abidjan. Où ça? En Côte d'Ivoire, bien sûr. Et ça raconte donc la vie des personnages qui vivent dans ce quartier, que tout le monde appelle Yop City, pour faire comme dans le film américain. Il y a plein de styles de personnages et de familles. Les personnages principaux sont Aya et ses deux copines, Adjoa et Bintou. Elles ont à peu près 20 ans. On suit leurs aventures et celles des personnages de leur famille. Au début, on suit surtout l'histoire d'Adjoa qui tombe enceinte et dont personne ne connaît le père. Tout le monde croit que c'est Moussa, un fils de riche, mais le bébé ne lui ressemble pas du tout. Du coup, le grand-père fait le tour du village et découvre ainsi tous les habitants. Cela raconte donc l'histoire de ce village, qui aime qui va où, qui fait quoi. Ce qui m'a plu, c'est qu'il y a beaucoup de... Il y a une BD sur l'Afrique et non pas un livre historique, ça change beaucoup. Ça nous permet de découvrir l'Afrique heureuse et non pas l'Afrique triste. Cette bande dessinée a été écrite par Marguerite Aboué et dessinée par Clément Oubrerie. Marguerite Aboué est une Ivoirienne qui a vécu toute son enfance dans le quartier de Yopougon. C'est pour ça qu'elle raconte l'histoire de Aya et montre un autre visage de l'Afrique, plein de vie. Les dessins sont assez colorés, ils sont assez chouettes. J'aurais bien aimé qu'il y ait une suite dans un autre pays africain. Ce film m'a donné une envie de savoir plus sur la Côte d'Ivoire. Depuis, j'ai regardé plein de vidéos des gens qui ont voyagé là-bas. Et j'aimerais bien pouvoir y aller. Bon, voilà, en gros, vous l'aurez compris, je vous conseille de lire cette super bande dessinée en 6 volumes. C'est comme une série, dès que tu finis un épisode, tu as très envie de relire la suite. Pour ceux qui n'aiment pas trop lire, vous pouvez voir le dessin animé qui a été fait en le téléchargeant légalement, bien sûr. Bonne lecture à tous.
Bah, Raphaël, qu'est-ce que tu fais ?
Bah, Louane, c'est l'heure de l'interview de Bresson. En route ! T'es prête ? On y va !
Brian, c'est à toi !
Bonjour, monsieur Bresson.
Bonjour.
Comment avez-vous entendu parler du récit de Jean-Corentin Carré ?
Oh là là ! Eh bien, écoute, Jean-Corentin Carré, déjà, c'est un petit Breton qui est né au Fawet en 1900 et qui voit, pour la Première Guerre mondiale, qui voit son père partir avec ses frères. À l'époque, il n'avait que 14 ans. Évidemment, il était trop jeune pour partir sur le front, mais avec un esprit très patriotique. Et puis surtout, il était déjà... C'était un garçon qui était très mûr, qui était en avance aussi sur son temps, quelque part. Il s'est sauvé de chez lui, un soir, sans prévenir sa mère. Il a changé de département parce que l'Internet n'existait pas. On ne recensait pas comme ça sur Internet à l'époque. Il a changé de nom. Il s'est appelé Auguste Dutoit au lieu de Jean-Corentin Carré. Il a changé son âge. Il a pris 18 ans au lieu de 14 ans. Et après, il est parti à Rennes à l'école de militaire. Et ensuite, il a été envoyé sur le front, que ce soit à Verdun, dans la Somme, où il y a eu les plus grandes batailles. Hein. Donc, il a fait les 4 années de la Grande Guerre.
Qu'est-ce qui vous a touché dans cette histoire ?
Eh bien, son jeune âge, son destin, ce qui m'a touché avant tout, c'est que c'est un jeune garçon qui est parti au départ la fleur au fusil. Comme tout jeune garçon, il est parti en croyant que la guerre, c'était un jeu. Et c'est vraiment au front, sur le front, quand il a vu ses camarades mourir autour de lui, quand il a dû se battre dans la tranchée contre les Allemands, quand il a dû tuer pour la première fois, il a vu que les gens se relevaient plus. Et là, il a pris vraiment conscience que la guerre, on pouvait mourir. Donc, il a commencé à se culpabiliser, à tomber dans une espèce de dépression. Et petit à petit, tout au long de la guerre, il s'est posé des questions. Et il a pris beaucoup de recul. Et on va voir que sur ces 3 albums, puisque Jean-Corentin Carré est sur 3 albums, on va voir qu'au fur et à mesure de son aventure, il va vouloir redevenir le garçon qu'il était avant. Malheureusement, il a grandi. Malheureusement, pour l'armée française, c'est devenu un exemple. Il a été pris dans un tourbillon, dans un cercle vicieux. Forcément, il a été décoré. À 16 ans, il est devenu sergent. Et il a été pris surtout comme exemple pour l'armée française. Donc, il ne pouvait plus revenir en arrière. Donc, il était pris à son propre piège. Il a été obligé d'aller jusqu'au bout de la guerre.
À quel moment vous vous êtes dit il faut raconter l'histoire de ce jeune soldat de 15 ans à BD ?
Oh ben, il y a bien longtemps que je voulais le faire, il y a un peu plus de 7-8 ans. J'avais commencé à faire les pages et puis après je suis comme plein d'auteurs de BD, on a plusieurs projets sur le feu. Je l'ai mis de côté et puis je suis retombé sur des carnets de mon arrière-grand-père qui avait fait la guerre et qui parlait de ce jeune garçon dans son carnet. Parce que mon arrière-grand-père, lui, avait combattu à Verdun dans le 35e régiment. Et il avait mentionné dans son carnet, qui notait au quotidien ses combats, ses moments de détente, il avait mentionné le nom de ce jeune garçon, Jean-Corentin Carré. Et, enfin, Auguste Dutoit plutôt, parce qu'à l'époque, on ne savait pas que c'était Jean-Corentin Carré. Et il mentionnait que c'était un jeune gars, parce qu'il faut savoir déjà que physiquement il était petit, c'était pas un grand costaud. Et c'est à partir de là que j'ai voulu raconter le destin de ce jeune garçon, puisqu'on le connaît très peu. Pourtant, les grandes villes portent son nom, comme à Rennes, par exemple, il y a la rue Jean-Corentin-Carré. Et j'ai voulu un petit peu réhabiliter ce jeune garçon et me dire, bien voilà, c'était une autre époque, parce que j'ai des enfants, je suis papa aussi, et je ne serais pas prêt de laisser mon fils partir sur le front à 14 ans.
Pourquoi avoir choisi la BD à la place du roman ?
Parce que je suis auteur de BD et pas auteur de roman. Et que la bande dessinée, pour toucher le maximum de jeunes, parce que je pars toujours du principe que c'est un devoir de mémoire, une transmission. Transmettre toujours aux futures générations, c'est important. Alors quel meilleur support pour transmettre aux jeunes générations ? La bande dessinée.
Êtes-vous fier de votre BD et pourquoi ?
Pardon ?
Êtes-vous fier de votre BD et pourquoi ?
Oh, fier, pas forcément fier, mais très content parce que j'ai pu réhabiliter l'esprit de ce jeune garçon. Maintenant, on sait qui est Jean-Corentin Carré, et c'est ça qui est chouette. Ce qui est marrant, c'est que je fais beaucoup d'interventions dans les écoles. Je rencontre des jeunes qui ont l'âge de Jean-Corentin Carré, donc forcément, ça les touche d'autant plus parce qu'ils ont le même âge. Et ce qui est assez marrant, c'est de voir un petit peu le décalage, c'est-à-dire qu'aucun de 14-15 ans serait prêt à aller se battre sur le front, alors que ce jeune garçon, il ne s'est pas posé la question. Pour lui, c'était inévitable. Donc, je peux être fier, effectivement, de l'avoir réhabilité, mais très heureux qu'on connaisse maintenant son nom.
Ok, merci.
Merci.
Alors, merci Brian et Monsieur Bresson de cette interview. Maintenant, on va écouter un extrait de Spirou, qui un extrait radiophonique fait par Raphaël, bon, pas moi, mais un collègue à moi.
Le Spirou, de Franck P. et Zidrou. Un extrait de BD adapté par les jeunes de la maison de quartier de Bellevue. Spirou, la lumière de Bornéo.
Si le monde a connu un commencement, il devait ressembler à ce matin du mois de février. Très précisément ici, dans la réserve naturelle de Kitchery, au sud-est du Mozindu. En fait, si tu fais du bruit, on ne verra pas de...
Capi, capi.
En fait, les mains devant la bouche et silence. Incroyable, un okapi blanc, j'ai jamais vu. Il n'a pas d'étalé. Mon petit cœur, c'est LA chance de ta vie. Mais... Je n'ai pas rêvé tout de même. Hein ? Des braconniers !
Aouzoubilei ! Les connards d'armes IPL ! Uyu Mezengo !
Écoutez, votre trafic ne m'intéresse pas ! Tenez, prenez mon appareil !
Bulbafu ! Ya Mezengo ! Uyu Anna ! Onamengi Ubao !
Ne tirez pas ! Ne tirez pas !
Basé Uyu !
Alors, merci d'être venu écouter notre émission de radio. Alors, on se donne un rendez-vous la prochaine fois. On fait un big up aussi à Fréquence Mutine. Leur fréquence, c'est le 103.8. Et leur site, c'est fréquencemutine.fr.
Et oui, chers auditeurs, cette émission, fort d'un moment épique, touche à sa fin. On remercie tous nos invités qui ont pris le temps de répondre à nos questions, mais également nos chroniqueurs et intervieweurs préférés que nous avons hâte de retrouver dans une prochaine émission. Et surtout, merci à vous.